franceinter.fr.
Le journal, Alain Passerelle. Alain, bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, une photo du nouveau gouvernement sur des marches de l'Élysée. Pour l'anecdote, ça n'est pas le président et son premier ministre qui se sont placés au premier rang et on a pris soin, comme à table, d'alterner hommes et femmes. Anecdotiques également, mais émouvantes, ces quelques larmes ce matin qui ont coulé sur la joue de François Bayrou. Dans le premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II, Gérard Collomb a présenté le projet de loi censé renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Nous verrons ce que dit le texte. Invité Sébastien Pietrasanta, ex-député socialiste, rapporteur de plusieurs lois antiterroristes et qui ne pense pas spécialement utile de faire entrer des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Emmanuel Macron a filé ensuite vers Bruxelles pour son premier sommet européen. Il plaidera, entre autres, pour une vraie défense commune européenne. La canicule est un mercredi qui restera dans l'histoire comme la journée la plus chaude en France depuis 1945. 26 degrés 2 en moyenne. Circulation différenciée à Paris depuis ce matin. Comment ça marche? Nous sommes allés sur le terrain. Dans cette édition également, une simulation cet après-midi de cybercrise dans les entreprises. Le ministre de l'Éducation qui voudrait de la musique dans toutes les écoles le jour de la rentrée prochaine. Un jeune basketteur français en route vers la NBA et puis une visite virtuelle de bibliothèque mythique. C'est à la BNF jusqu'à la Miaou. Comme vous le savez, c'est toujours plus romantique. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Bon bah, il fait chaud. Hein.
Et oui, 67 départements toujours en vigilance orange canicule. On vérifiera d'ailleurs demain que ce jeudi ne sera pas plus chaud que la journée d'hier. On attend 31 degrés à Lille, 32 à Marseille, mais jusqu'à 35 à Nancy, 36 à Paris, à Lyon, 37 pour Nevers et Limoges, jusqu'à 38 degrés à Toulouse. On sent une amélioration quand même vers la Manche, vers l'océan, 22 degrés à Deauville, 23 à Brest, 26 à Biarritz et 30 à Nantes.
Et du soleil là-dessus.
Oui, alors un peu de grisaille quand même vers les plages de l'Aquitaine. Et puis ça tourne à l'orage d'abord en montagne, mais aussi sur la moitié est avec des orages qui pourront être forts, avec un peu de grêle, de violentes rafales de vent, en particulier entre les Ardennes et l'Alsace. On a d'ailleurs 6 départements de la Lorraine et de l'Alsace en vigilance orange orage. La nuit à venir, elle, s'annonce plus respirable dans l'ouest. L'après-midi, les fortes chaleurs, elles se décaleront vers le flanc est, la Méditerranée, avec 33 à 37 degrés. Et ailleurs, ce sera mieux, 21 à 33.
Ça n'a pas traîné, tout juste nommé. Le nouveau gouvernement s'est assis à 10h dans la grande salle du Conseil des ministres. Certains ou certaines en poste depuis le 17 mai, faisant déjà office d'anciens. Parmi les nouveaux visages du gouvernement Philippe II, qui ont gravi pour la première fois les marches du palais, 5 ministres de plein exercice, 6 secrétaires d'État. Bonjour Sébastien Sabiron. Sébastien, vous êtes normalement à l'Assemblée. Sébastien ?
Oui, je suis à l'Assemblée, Alain.
Oui, et comme d'habitude, on a fait la photo, hein, mais pas comme d'habitude, le président n'était pas au premier rang, paraît-il.
Oui, effectivement, Alain, le cadre est conventionnel, photo prise dans les jardins de l'Élysée. Ce qui l'était moins, en revanche, c'est la façon dont l'exécutif s'est installé. Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont bien au centre de la photo, mais au deuxième rang, le président jupitérien est au milieu de son équipe. Au premier plan, plein cadre, il y a Nicolas Hulot, encadré de deux recrues régaliennes, Françoise Parly, ministre des Armées, et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. On bouscule donc l'ordre protocolaire et on met en avant la parité, un homme et une femme, un homme et ainsi de suite. Une photo Shabada, nous disent les communicants de l'Élysée. Communication rodée, mais de nouvelles frictions assez vives avec la presse. Ce matin, l'Élysée voulait soit choisir ses photographes pour s'éviter des clichés peut-être moins Shabada. Pendant la mise en place, les autres ont répliqué par une grève des flashs.
Merci Sébastien Sabiron et à l'instant Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui nous dit que le deuxième gouvernement Philippe a vocation à durer longtemps. On l'avait compris ce matin autour de la grande table, non loin du chef de l'État, comme le veut l'importance de la charge régalienne. Il y avait la nouvelle ministre de la Justice, Nicole Belloubet, inconnue du grand public et qui a donc remplacé François Bayrou, héros malgré lui de cette deuxième séquence de composition gouvernementale. Là où aussi, c'est allé très vite. La passation de pouvoir a eu lieu entre 8h et 9h ce matin. Bonjour Sarah Gibaudeau. Un peu de tendresse avouée dans ce monde impitoyable de la politique. On a vu un François Bayrou très ému.
Oui, François Bayrou n'a pas caché ses regrets. Il a voulu souligner qu'il avait déjà beaucoup fait en 3 semaines avec le projet de moralisation de la vie publique. Il a prévenu Nicole Belloubet qu'elle allait rencontrer des résistances, des lobbies au Parlement sur ce texte. François Bayrou lui a en fait tracé une feuille de route avec aussi la réforme pour rendre les procureurs indépendants, seule allusion à l'enquête judiciaire qui a précipité son départ.
J'ai souvent déclaré dans la période agitée que nous avons traversée que le ministre de la Justice n'était pas le chef des parquets. Cette réflexion, vous allez devoir l'assumer. Je vous y aiderai. Vous avez beaucoup de chance. C'est un très beau ministère et c'est une mission très exigeante. Merci à tous.
Monsieur le ministre, cher François, je mesure la singularité de ce moment pour vous et j'espère que j'obtiendrai la réussite que vous méritiez.
Celui qui redevient maire de Pau laisse couler ses larmes en posant avec lui Nicole Belloubet, lâchant souriant. Je ne pensais pas hier matin que je me retrouverais ici aujourd'hui. La professeure de droit, ancienne élue socialiste de Toulouse, siégeait depuis 4 ans au Conseil constitutionnel. Elle est arrivée seule, place Vendôme, dans son tailleur rose et doit maintenant vite constituer son équipe.
Merci Sarah Gibaudeau. François Bayrou a affirmé hier qu'il n'y avait jamais eu d'emploi fictif au MoDem. En fait, ce n'est pas ce qui peut lui être reproché. Il s'agit d'une affaire d'emploi détourné, et celui qui a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire autour des attachés parlementaires rémunérés sur des fonds européens et qui auraient travaillé pour le parti de François Bayrou, Mathieu Lamarre, a été entendu comme témoin ce matin. Le Front National est soupçonné des mêmes détournements. Ce matin aussi, Louis Alliot, désormais député, a refusé de se rendre à une convocation de la police. Revenons au premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II. On retiendra que c'est au cours de celui-ci que Gérard Collomb a présenté un nouveau projet de loi antiterroriste. Ce texte qui a reçu le feu vert du Conseil d'État après avoir suscité une levée de boucliers des défenseurs des libertés publiques est présenté par Beauvau comme la solution pour éviter une prolongation perpétuelle de l'état d'urgence. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Vous nous en donnez les grandes lignes.
Alors, il y a 8 mesures essentielles dans ce projet de loi que le ministre de l'Intérieur présente comme un texte protecteur pour les Français, un texte d'équilibre, dit-il, après des discussions serrées avec le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a sérieusement fait évoluer ce texte pour qu'il soit moins attentatoire aux libertés individuelles, et c'est vraiment important de le noter. Alors, après évolution, on peut retenir parmi les mesures phares, d'abord, la possibilité pour les préfets d'établir des périmètres de protection autour d'un événement qui pourrait être la cible de terrorisme. Dans ces périmètres, la nouvelle loi, si elle est votée, autorisera les fouilles et les filtrages. Deuxième point important, les préfets pourront, comme sous l'état d'urgence, fermer des lieux de culte, mais à la seule condition qu'ils prônent le terrorisme, et la fermeture pourra être contestée devant un juge administratif. Troisième point majeur, les assignations à résidence. Ces assignations ne pourront désormais s'appliquer qu'à des personnes en lien avec des organisations terroristes et présentant une menace d'une particulière gravité. Ces assignations ne pourront pas être étendues au-delà de 3 mois, sauf si l'autorité administrative apporte des éléments nouveaux. Et les assignés auront un peu plus de liberté qu'aujourd'hui. Ils pourront se déplacer à l'échelle d'une commune, au minimum, voire au-delà d'un département, avec un bracelet électronique. Et ils ne devront plus pointer qu'une seule fois par jour au commissariat, contre 3 ou 4 actuellement. Et puis, dernière mesure essentielle, eh bien, ce sont les perquisitions administratives qui sont rebaptisées visites et saisies, ce qui peut un peu surprendre. Beauvau voulait initialement qu'elle soit pilotée par le procureur sous l'autorité donc du ministère de la Justice, et c'est finalement un juge des libertés et de la détention qui pourra autoriser ces nouvelles perquisitions.
Bonjour Sébastien Pietrasanta.
Bonjour.
Ex-député socialiste, je précise que vous ne vous êtes pas représenté pour ces législatives. Vous avez été rapporteur de plusieurs lois antiterroristes, également rapporteur de plusieurs commissions d'enquête parlementaire sur ces questions. Alors des lois, il y en a eu 5 depuis 2012, 2 lois sur le renseignement. La dernière loi a été votée il n'y a même pas 4 mois. Il fallait en refaire une, selon vous ?
Moi, je me méfie toujours du fait de pouvoir légiférer à chaque fois qu'il y a un attentat. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, nous avons beaucoup légiféré depuis 2012 avec un arsenal judiciaire relativement complet. On a un des arsenaux judiciaires les plus complets d'Europe, et nous avons renforcé nos effectifs également. Donc, cette loi ne me paraissait pas des plus utiles.
Enfin, utile un peu quand même, si j'ose dire, elle peut apporter quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette loi avant de parler de ce qui fâche?
Mais d'abord, je vais quand même parler de ce qui fâche, parce que sortir de l'état d'urgence, annoncer qu'on veut sortir de l'état d'urgence en mettant, ce qui est quand même quelque chose de très exceptionnel, en le mettant dans du droit commun, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Après, effectivement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme l'instauration de périmètres de protection, la possibilité pour les préfets de pouvoir fermer plus facilement des lieux de culte. Tout ça, effectivement, est quelque chose sur lequel nous avions un besoin particulier.
Il fallait une loi pour ceci ?
Non, parce que en réalité, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Alors certes, pour la fermeture des lieux de culte, c'est beaucoup plus compliqué. Ça passe notamment sur la dissolution d'associations, ça passe par le Conseil des ministres. Donc ça, effectivement, est plus complexe. Moi, je pense que la lutte contre le terrorisme, elle passe pas par forcément une énième loi. D'ailleurs, les mesures de l'état d'urgence sont très peu utilisées en matière de lutte contre le terrorisme. On voit bien que notamment la DGSI, qui est quand même le fer de lance en matière de lutte contre le terrorisme, utilise très peu les mesures de l'état d'urgence. C'est pas par là que l'on pourra efficacement lutter contre le terrorisme.
Une question de Sophie Parmentier.
Il y a eu plus de 4300 à peu près perquisitions depuis le début de l'état d'urgence en novembre 2015. Le fait que ces perquisitions entrent dans le droit commun, rebaptisé d'ailleurs visite et saisie, est-ce que ça vous paraît utile?
D'abord, il y a des perquisitions qui existaient avant la mise en place de l'état d'urgence. Et par ailleurs, sur 4200 perquisitions administratives depuis novembre 2015, on a eu très peu d'affaires de terrorisme qui sont sorties de ces perquisitions administratives.
Oui, mais très peu, Sébastien Pietrasanta, c'est peut-être déjà beaucoup, non ?
Très peu, c'est peut-être déjà beaucoup, mais ce que je voulais dire, c'est que notamment la DGSI utilise très peu les perquisitions administratives, parce que les perquisitions à domicile des individus que l'on repère pouvaient se faire hors état d'urgence, et on peut le rappeler, se font hors état d'urgence. Et par ailleurs, l'effet de surprise qui a été mis en œuvre après le 13 novembre, dans les premiers jours de sa mise en œuvre de l'état d'urgence, n'existe plus. Ce que j'avais pointé dans le cadre du rapport de la commission d'enquête, l'état d'urgence a été utile dans ses premiers jours, mais il y a eu un effet limité dans le temps. Son effet s'est complètement estompé au fil du temps. D'ailleurs, il y a eu depuis décembre 2016 à peine plus d'une centaine de perquisitions, alors qu'on en compte 4200 depuis novembre 2015. Donc on voit bien que ce n'est même plus réellement utilisé par nos services de renseignement.
Ce qui pose problème aux défenseurs des libertés individuelles, ce sont les assignations. Elles ont été un peu assouplies, non, les règles de cette obligation pour les gens qu'on soupçonne un tant soit peu de rester à leur domicile.
Oui, mais là aussi, je trouve qu'on tombe dans une hypocrisie. Soit on a des éléments judiciaires sur lesquels on peut judiciariser un individu, et dans ces cas-là, la justice doit suivre son cours. Soit on n'a pas d'éléments judiciaires, et dans ces cas-là, sous quel prétexte on peut les assigner à résidence de manière permanente. D'ailleurs, il n'y a pas de durée limite, ça devient compliqué. Le Conseil d'État, d'ailleurs, a souligné le fait que des assignations à résidence extrêmement longues pouvaient affaiblir notre état de droit. Donc c'est effectivement une difficulté. Et par ailleurs, une assignation à résidence n'empêche pas un individu de pouvoir être en contact avec tel ou tel individu. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'un des auteurs du meurtre du père Amel de Saint-Étienne d'Ourouvray faisait l'objet d'une surveillance avec un bracelet électronique et en assignation à résidence.
Alors voilà pour les choses inutiles selon vous. Quelles sont vos propositions, Sébastien Pietrasanta? Comment que faire dans la loi pour combattre mieux en tout cas le terrorisme?
Ben les propositions, j'en ai formulé 40 au moment du rapport de la commission d'enquête, qui date de l'été dernier.
Et vous avez une minute pour nous les donner.
Une bonne partie ont déjà été mises en œuvre. Et ça passe pas forcément d'ailleurs par la loi. Et on avait proposé la création d'une agence nationale de lutte contre le terrorisme. Et je me réjouis d'ailleurs, point de satisfaction, que le président Macron ait repris cette idée à son compte en créant cette task force contre le terrorisme. Il faut mieux coordonner entre les services de renseignement, améliorer une fluidité de l'information entre les services de renseignement intérieur et les services de renseignement extérieur. Et on voit bien d'ailleurs sur ce qui s'est passé il y a quelques jours sur les Champs-Élysées que la coopération, c'est pas qu'un vain mot.
Merci Sébastien Pietrasanta, ex-député socialiste. Je précise que vous venez de fonder ces jours-ci votre société de consulting en tant qu'expert des questions de terrorisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans la foulée du Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'est envolé pour Bruxelles et son premier sommet européen. Ambition, relancer le projet politique de l'Union européenne aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. Plus précisément, le chef de l'État plaidera pour un ministre des Finances de la zone euro et aussi une vraie défense européenne. Avec comme allié l'Allemagne, la France espère voir la création du Fonds européen de la défense proposé par la Commission le 7 juin. Un projet qui doit mobiliser plus de 5 milliards d'euros par an. Écoutez ce qu'en pense l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, le général Paloméros, et toujours commandant au sein de l'OTAN. L'Europe doit savoir se protéger et acquérir une autonomie stratégique, dit-il, et ce qui est prévu est plutôt bien.
La bonne nouvelle, c'est que l'Europe s'intéresse à sa défense. Il va falloir effectivement un effort individuel et collectif pour se dire qu'ensemble, on va faire mieux que tout seul dans certains domaines. On a compris que l'Europe devait se bâtir sur trois piliers, politique, économique et la défense et la sécurité. Et que ces trois piliers étaient interdépendants. On l'a oublié pendant un certain temps. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient. Il faut stimuler l'innovation, il faut prendre des risques. Moi, je peux vous donner une piste à laquelle je crois beaucoup, c'est un système européen de surveillance. On parle beaucoup de l'acquisition de la connaissance, de la maîtrise de l'information, du renseignement. Eh bien, si l'Europe se lance dans un grand système de surveillance, et en particulier aérien, aéromaritime, elle peut y inclure les drones, les systèmes satellitaires, les systèmes aéroportés et bien d'autres encore, en se donnant les moyens d'une certaine autonomie stratégique vis-à-vis du renseignement de l'information. Voilà un projet qui me semble à la hauteur d'une ambition européenne et qui est assez ouvert pour que tous les pays européens y prennent part. Parce qu'il faut, prendre ça en compte.
Le général Paloméros au micro de Nathalie Hernandez. Allez, on revient à la politique bien française avec l'élection ce matin d'un nouveau président de groupe parlementaire, celui du Parti Socialiste. Il y avait deux candidats. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour.
Et c'est Olivier Faure qui a été réélu aux dépens de Delphine Bateau.
Oui, le député de Seine-et-Marne, président de groupe sortant, réélu avec 28 voix contre 3 à sa concurrente Delphine Bateau. Une désignation sans surprise et sans drame. Impossible en effet de se diviser quand on est si peu nombreux. Une trentaine, 10 fois moins que dans l'Assemblée sortante. Olivier Faure défend donc le plus petit dénominateur commun.
L'idée, c'est quand même de rester fidèle à celles et ceux qui nous ont fait confiance. Et donc de n'être ni dans l'obstruction, dans une forme d'opposition pavlovienne, ni dans une forme de robotisation de la pensée qui nous conduirait à être d'ores et déjà dans une majorité présidentielle.
Le groupe sera inscrit dans l'opposition et pourtant les socialistes ne sont pas tous d'accord. Franche opposition ou soutien exigeant au gouvernement. Le moment de vérité, ce sera le vote de confiance le 4 juillet. D'ici là, pas question de se fâcher entre camarades rescapés. Le député du Val-de-Marne, Luc Carvounas.
Je ne suis pas pour l'exclusion de qui que ce soit. D'abord, on est trop peu nombreux pour commencer à s'exclure. Moi, je vais continuer à m'appliquer, à convaincre mes amis qu'il faut au moins s'abstenir. Après, s'ils votent pour, moi, je respecte.
Option la plus probable, à défaut d'être la plus claire, la liberté de vote le 4 juillet, à moins que tous parviennent à se retrouver sur une ligne d'abstention vigilante. Quant à l'absent du jour, Manuel Valls, il n'est pas vraiment le bienvenu.
À ma connaissance, Manuel Valls a choisi un autre destin que celui que nous partageons. Et donc, il a fait ses choix et ils sont respectables, mais ils ne sont pas communs avec ce que nous portons.
Manuel Valls, réélu sans étiquette et dans la douleur dans l'Essonne, sera-t-il en mesure de créer un groupe distinct? Rien n'est moins sûr. On en est déjà à 7 groupes parlementaires dans cette nouvelle assemblée. Un record. Au Palais Bourbon, Louise Boudet, Yvan Turc, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Alain Passerelle.
Vous pourrez dire, j'y étais. La journée d'hier, celle du début de l'été 2017, aura été la plus chaude, tout mois confondu, depuis 1945. Un record, vous disiez tout à l'heure, Elodie Calac, qui pourrait être battu. Aujourd'hui, il va falloir s'habituer. Selon un expert du CNRS, la probabilité d'une vague de chaleur, comme celle que nous avons eue en 2003, par exemple, est aujourd'hui 10 fois plus importante qu'elle ne l'était à la fin du XXe siècle. Celle que nous vivons ces jours-ci est d'ailleurs très rare en juin. Elle devrait prendre fin la nuit prochaine. En attendant, la pollution qu'elle provoque est toujours là. La circulation différenciée est en place depuis ce matin à Paris, Petite Couronne. Reportage Bénédicte Dubois qui s'est rendu place d'Italie dans le 13e arrondissement.
Monsieur, bonjour. Vous pouvez couper le contact, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle?
Eh bien, parce que ce monsieur a bien une vignette, mais critère 4.
Vous n'avez pas le droit de rouler avec votre véhicule, monsieur.
Je ne savais pas du tout. Je suis désolé.
L'ignorance lui coûtera donc 68,45 € s'il paye tout de suite. Et des ignorants, il y en a beaucoup. beaucoup et qui n'ont même pas encore de vignette.
Non, parce que je l'ai pas reçu. J'ai commandé, j'ai le papier, mais j'ai jamais reçu la vignette.
Vous l'avez pas commandé, votre vignette?
Non, j'ai oublié, je savais même pas.
Vous m'avez dit de commander la vignette, c'est obligatoire, je sais pas quoi, mais je m'en fous. Hein.
Mais lui ne sera pas verbalisé, son scooter est récent, donc autorisé.
Seront verbalisables les défauts du port de la vignette qu'à partir du 1er juillet.
Françoise Hardy est la sous-directrice régionale de la circulation et de la sécurité routière.
Donc là, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer donc aux personnes qui n'ont pas encore la vignette, c'est-à-dire un Parisien sur deux, qu'il faut acheter la vignette maintenant rapidement. Et pour les Franciliens, il y a un Francilien sur trois qui a acheté la vignette. Donc ça fait encore deux sur trois qui n'ont pas acheté.
Et parmi ceux qui l'ont, il y a quand même des réticences.
Tout à fait, la lutte contre l'abolition. Mais par contre, tu vois, c'est que ça sera en parallèle avec des propositions qu'on pense qu'on nous interdit de faire.
Tu veux améliorer peut-être les transports?
Là, on nous racle. On nous fait payer. On est des vaches à lait.
Est-ce que c'est vraiment efficace? C'est la question.
Et attention, à partir du 1er juillet, en plus de la verbalisation pour défaut de vignette, les critères 5 seront interdits dans la capitale.
Climat toujours, mais celui des affaires. Mesuré par l'INSEE, il a continué de s'améliorer ce mois-ci sous l'impulsion des secteurs du commerce de détail et du bâtiment. Il est au plus haut, en fait, depuis juillet 2011, un bon chiffre qui s'ajoute à ceux de ces derniers jours. La situation qui empire à Calais, le défenseur des droits a instamment demandé ce matin l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants et la réouverture d'un guichet qui leur permettrait de demander l'asile. Jacques Toubon avait exigé déjà la semaine dernière qu'un accès pérenne à l'eau soit rendu possible ainsi que des distributions de repas dans des conditions dignes. Il y a quelques semaines, un virus informatique baptisé WannaCry infecté 300 000 ordinateurs dans le monde. Ses créateurs réclamaient une rançon pour débloquer les données. Que faire face à cette délinquance particulière qui augmente? Que faire dans une entreprise en cas d'attaque informatif? Le CLUSIF, qui veut dire Club des utilisateurs de la sécurité et de l'information en France, organise cet après-midi une simulation de cybercrise. Exercice de niveau national pour observer les comportements et en tirer évidemment des enseignements. Béatrice Duguay.
Le scénario est à deux entrées. Une clinique parisienne et un laboratoire pharmaceutique bordelais subissent une attaque.
Un outil malveillant informatique qui va verrouiller un poste de travail et qui, en échange d'une rançon financière importante, proposera de rendre les clés pour déchiffrer l'information et la récupérer, si tant est que ça puisse fonctionner et qu'on puisse récupérer quelque chose.
Parce que, précise Jean-Marc Grémy, le président du CLUSIF, le jeu de rôle va se corser dans les deux entreprises après diffusion du virus. Appel de policiers, spécialistes de cybercriminalité, appel de journalistes et même...
On met même un syndicat dans la boucle pour demander à la direction de prendre une position.
Tout ça, précise Lionel Mourer, conseiller en sécurité de l'information, tout ça pour voir comment réagissent les protagonistes.
Oui, on a cette vision de quelles seraient les bonnes attitudes au regard du scénario qui est proposé. Par exemple, on est dans une attaque de type ransomware, donc on va demander à payer une rançon. Aujourd'hui, par exemple, les instances de l'État déconseillent lourdement de payer ce type de rançon. Pour autant, certaines entreprises le font. Donc là, on verra ce qui va se passer concrètement.
Comment les employés du labo et de la clinique vont-ils endiguer le phénomène pour ne pas qu'il se propage à d'autres serveurs? Les sauvegardes des entreprises sont-elles suffisantes? La cybercrise démarre dans quelques instants.
L'INSEE, encore lui, a fait ses projections démographiques pour la France d'ici 2050. France qui compterait 74 millions d'habitants en cette année-là, soit 8 millions de plus qu'en 2013. La tête du classement pour les régions resterait inchangée, avec l'Île-de-France en première place, l'Auvergne-Rhône-Alpes en deuxième. La population serait en baisse seulement en Guadeloupe et en Martinique. Et puis à cette date, les décès deviendraient supérieurs aux naissances. La France compterait donc en 2050 plus de 20 millions de personnes de 65 ans ou plus. Émotion à venir de l'autre côté de la Manche. Selon les services du Premier ministre, quelques 600 immeubles en Angleterre auraient un revêtement similaire à celui de la tour Grenfell de Londres, tour dont l'incendie la semaine dernière a fait au moins 79 morts. Certains pourront voir cela comme tout à fait inutile, voire très naïf. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite que la prochaine rentrée se fasse en musique. Il incite tous les établissements à lancer la coutume pour une rentrée, dit-il, moins triste. Initiative présentée hier lors de la fête de la musique. Ça tombait bien, Solène Noën.
Jean-Michel Blanquer veut introduire davantage de musique à l'école. Cette rentrée en musique est donc une première étape, avec le 4 septembre des chansons, des concerts dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées de France.
Le cœur de ce que nous devons faire, c'est créer une école de la confiance, où chacun vient avec bonheur. La musique, spontanément, même chez le petit enfant, a apparaît comme ce qui fait lien entre les connaissances. C'est quelque chose qui unit. Et donc, il y aura, je l'espère, moins de larmes chez les petits à cette rentrée, et beaucoup plus de sourires que d'habitude.
Yasmine, 12 ans, approuve.
Moi, j'aime bien chanter. D'habitude, quand on est à la rentrée, on est stressé de ce qui va se passer. Et s'il y a de la musique, je pense qu'on sera plus posé et que ça sera mieux.
Sébastien Cousin, professeur de musique dans un collège de Gennevilliers en région parisienne, a déjà réfléchi. Sa chorale donnera un concert dans la cour.
Pour nous, c'est simple parce que la chorale est mobilisée. Elle a déjà un répertoire, une petite répétition de 2 heures et c'est parti. Généralement, on a des spectacles de fin d'année. Si on peut déjà commencer à produire quelque chose ensemble à la rentrée, c'est formidable.
Pas besoin d'organiser quelque chose de sophistiqué pour cette première, dit Jean-Michel Blanquer. L'idée, c'est que tous les enfants et les enseignants participent. Simple chanson, concert de casserole ou de flûte à bec accepté, du moment, précise quand même le ministre, que c'est harmonieux.
Le sport à Prague pour une place en demi-finale des championnats d'Europe de basket. Les Françaises, qu'on dénomme les braqueuses, affrontent ce soir leurs collègues slovaques. C'est à 20h30. Les grands amateurs de basket qui sortent à peine de nuits écourtées pour cause de fin de championnat NBA, après avoir évidemment regardé le match des filles, veilleront peut-être encore la nuit prochaine pour la traditionnelle draft. C'est ainsi qu'on appelle cette compétition au cours de laquelle les équipes de NBA se répartissent les meilleurs espoirs du basket mondial. Cette année, un petit Frenchie, petit façon de parler évidemment, fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Frank Ntilikina. Il joue à Strasbourg et il pourra faire partie des 10 premiers. Luc Dreosto.
Frank Ntilikina a d'abord été formé au club de Saint-Joseph Strasbourg, où jouent encore ses deux frères, puis à la SIG. Dès son plus jeune âge, ce garçon calme mais volontaire rêve de NBA. Sa mère, Jacqueline.
Ça fait depuis quelques années qu'il travaille dur. Hein. On ne se rend peut-être pas compte du travail qu'il y a derrière, mais il dort, il mange, il rêve basket depuis tout petit.
Frank Ntilikina fait ses débuts en Pro A alors qu'il n'a pas encore 16 ans. Il porte la France vers le titre de champion d'Europe junior. Et désormais, c'est la NBA qui lui tend les bras.
Les attentes, c'est d'être drafté dans une équipe qui a un bon projet, qui comprend mon style de jeu. La draft est qu'une étape et le plus important, ça vrai dire, c'est ce qui va se passer après. Le travail que je vais fournir pour devenir le meilleur joueur que je puisse devenir, ça va être une belle aventure.
Les New York Knicks ou les Dallas Mavericks pourraient miser sur le talent de Frank Ntilikina, l'entraîneur de la SIG, Vincent Collet.
Ils sont conscients qu'aujourd'hui, Frank ne peut pas, du jour au lendemain, être dominant en NBA. Mais par contre, ils sont conscients qu'il a la capacité à pouvoir le devenir. C'est le début, c'est pas la fin.
Frank Ntilikina pourrait devenir le joueur français sélectionné en meilleure position lors d'une draft NBA. Pour l'instant, cet honneur revient à Joachim Noah, choisi en 9e position.
Pour les non-initiés, la SIG, puisque vous insistez, ça veut dire Strasbourg et le Kirch Grafenstaden. Voilà, la draft sera retransmise cette nuit sur Beansport. Dur, la tournée du 15 de France en Australie. Deux grosses défaites pour l'instant. Le troisième test match aura lieu samedi à Johannesburg. Guy Noves a procédé à 3 changements. Il a titularisé Jules Plisson à l'ouverture. Il sera associé à Baptiste Serin. Brice Dulin retrouve sa place à l'arrière. Et Nance du coin a été préféré à Johan Hugé. C'est beau, comme dirait l'autre, une bibliothèque la nuit. C'est un voyage nocturne donc auquel vous invite la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Une visite virtuelle de 10 grandes consoeurs à elle, 10 grandes bibliothèques réelles ou imaginaires, celle d'Alexandrie ou encore celle du Congrès à Washington. Ilana Mor-Youssef s'est assise dans le fauteuil qui vous est promis.
On entre dans une bibliothèque comme on entre dans une forêt.
Guidé par la voix off de l'écrivain argentin Alberto Manguel, on entre dans une forêt de bouleaux argentés. On s'installe dans un fauteuil, on met des lunettes de réalité virtuelle et on choisit la bibliothèque qu'on veut visiter. C'est le metteur en scène canadien Robert Lepage qui a conçu l'exposition. Il propose une reconstitution à couper le souffle de la bibliothèque d'Alexandrie.
A-t-elle vraiment existé ? Comment était-elle constituée ? Quelle en était son architecture ? Bon, il y a différents témoignages. On s'est amusé à essayer de recréer cette bibliothèque qui a été détruite par le feu, apparemment. C'est une bibliothèque imaginaire, d'une certaine façon. C'est une bibliothèque plus mythologique que réelle.
On peut aussi visiter la bibliothèque du Nautilus, imaginée par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, la bibliothèque de Sarajevo, détruite pendant la guerre. Tout cela grâce à une extraordinaire technique d'immersion à 360 degrés. Alberto Manguel.
La bibliothèque est l'ordre que naïvement nous voulons imposer au désordre du monde.
Une bibliothèque privée est comme une autobiographie de son lecteur, conclut malicieusement Alberto Manguel.
À la BNF, François Mitterrand, jusqu'au 13 août, réservation obligatoire, la bibliothèque la nuit.